France Info.
Bonsoir, la candidature officielle de Christian Jacob, la surprise de Nicolas Sarkozy, Trump et la guerre et la fête de la musique après tout. C'est dans les informés avec nos invités. Bonsoir à vous, Chloé Morin.
Bonsoir.
Politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos. Également nos deux partenaires du vendredi des informés. Bonsoir, Éric Scholl.
Bonsoir.
Bienvenue, directeur de la rédaction de Courrier International. Et bonsoir, Kevin Boucaud-Victoire.
Bonsoir.
Enchanté de vous recevoir, rédacteur en chef Idée à Marianne, cofondateur de la revue Le Comptoir, auteur du livre Le Mystère Michéa, portrait d'un anarchiste conservateur aux éditions L'Escargot. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Maître Pascal Garbarini. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, avocat. Vous venez de signer Ma robe pour armure avec Elisabeth Fleury. C'est chez HarperCollins. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Christian Jacob est donc officiellement candidat aux Républicains à la présidence de LR. Il le dit dans une interview mise en ligne par Le Figaro cet après-midi, avec pour objectif de restaurer, dit-il, l'ADN de la droite et de jouer collectif. Voici ce que le président du groupe LR à l'Assemblée nationale déclarait. C'était il y a 3 semaines après le départ de Valérie Pécresse.
Quand le bateau est endommagé, on part pas en courant. On a le sens des responsabilités, on reste et on construit. Et on rebâtit.
Chloé Morin, rester, construire, rebâtir, on entend les mots de Christian Jacob, c'est son objectif aujourd'hui, c'était encore possible pour les Républicains ?
Voilà, on verra si c'est possible. Moi, il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est que ça n'est pas la première fois qu'une famille politique est en difficulté, ça n'est pas la première fois qu'elle se divise. On a vu le départ de Valérie Pécresse récemment, et puis il y avait Xavier Bertrand, qui est également une figure majeure des Républicains, qui était parti bien avant. La différence aujourd'hui, c'est que les partis politiques traditionnels peuvent se voir contester leur monopole beaucoup plus facilement par de nouveaux acteurs. On a vu Emmanuel Macron émerger sur le champ politique finalement très rapidement. Et donc finalement, les divisions d'une famille politique ou les difficultés sont beaucoup plus difficiles à surmonter. En gros, ça ne pardonne pas. La deuxième chose qui me frappe, c'est que si vous prenez les 5-6 personnalités les plus populaires chez les Républicains, aucune d'entre elles...
Dans votre baromètre Ipsos, hein.
Dans le baromètre Ipsos, par exemple, aucune d'entre elles n'est candidate. C'est Nicolas Sarkozy, François Baroin, Alain Juppé, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Christian Estrosi, si je m'arrête au sixième.
Oui.
Aucun n'est candidat pour relever sa famille.
Ouais, Kevin Boucaud-Victoire, pour poursuivre ce que dit à l'instant Chloé Morin, ces Républicains, ou du moins ce qu'il en reste, hein, est-ce qu'ils peuvent vraiment encore sauver leur peau?
Ils pourraient sauver leur peau, mais une condition, c'est de trouver un nouvel espace politique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a reconfiguré presque à lui tout seul, en fait, le paysage politique avec son élection, où il a réussi à faire l'alliance, on va dire, des modérés, des raisonnables ou des libéraux des deux rives, à gauche et à droite. Donc les Républicains, en fait, est-ce qu'ils peuvent essayer, en fait, cette difficile synthèse d'être un parti libéral conservateur? On l'a vu pendant la primaire de droite.
Il n'y a plus d'espace, c'est fini, quoi.
Et voilà, il n'y a plus d'espace parce que à leur gauche, ils ont Emmanuel Macron, qui est à la fois libéral, mais qui est capable de montrer que c'est aussi un vrai leader et quelqu'un qui défend l'ordre. On l'a vu avec la crise des gilets jaunes. Et puis à leur droite, d'un point de vue sociétal ou identitaire, et ils tapent sur le Rassemblement national, et les gens vont toujours préférer l'original à la copie.
Oui.
Donc maintenant voilà, il faut qu'ils arrivent à se trouver un nouvel espace, mais coincé entre les deux,
c'est toute la question quand même, hein.
Évidemment.
Pascal Garbarini, ce personnage là Christian Jacob, est-ce qu'il pourrait être un personnage de votre ouvrage Ma robe pour armure? Il y a beaucoup de gangsters là dedans, hein. Il y a beaucoup de personnages à jouer en couleur. Et ça vous convient, ça, vous ?
Je ne pense pas qu'il pourrait être dans mon livre, parce que je ne pense pas qu'il soit un leader. Je crois que la difficulté, c'est que la droite aujourd'hui traditionnelle, et c'est vrai que sur l'analyse politique, vous avez tout à fait raison, mais je pense en revanche que la droite, elle a besoin d'un leader. Et je pense que le leader aujourd'hui, ça pourrait être à nouveau Nicolas Sarkozy s'il n'avait pas ses déboires judiciaires. Et le fait qu'à chaque fois, on apprend que Nicolas Sarkozy a été appelé, on a voulu parler avec lui, il donne des rendez-vous, etc.
Là, il fait la pluie, le beau temps en coulisses à chaque
donc,
fois.
Donc c'est toujours un leader. Donc si Nicolas Sarkozy est toujours un leader alors qu'il a perdu les élections présidentielles et qu'il n'a pas été choisi par la primaire, on voit bien que le manque aujourd'hui, mais réel, du Parti Républicain, c'est d'avoir quelqu'un qui rassemble et qui puisse tenir tête en rivalité à Macron. Et là, ce n'est pas le cas.
C'est pas le cas. Oui, Éric Scholl, justement, pour poursuivre ce que dit à l'instant Pascal Garbarini, Christian Jacob écrit « Les Républicains ne sont pas à la recherche d'un homme providentiel », il l'affirme dans son interview au Figaro, « et doivent retrouver leur capacité à porter un collectif ». C'est un peu contraire à l'image du gaullisme, à l'incarnation du général de Gaulle, ça. Hein.
Non, mais là, il y a le feu, il y a le feu dans ce parti. Donc, en fait, il cherche même pas un leader. Là, ce qu'il cherche, c'est quelqu'un qui puisse tout arrêter cet incendie. On a bien vu que le 8% qu'ils ont fait aux élections européennes montre qu'il y a le danger maintenant, c'est la disparition de ce parti pour eux. Tout à l'heure, Clément Morin disait que les partis traditionnels avaient perdu un monopole, mais ça va bien plus loin que ça. Ils sont maintenant, ils savent qu'ils sont mortels, voire quasiment disparu. Regardez en Allemagne ce qui s'est passé. Le Parti social-démocrate, il est maintenant derrière le Parti des Verts. Et après tout, au fond, c'est ce qu'on peut voir sur le Parti socialiste en France n'existe quasiment plus. Le Parti de droite traditionnel peut aujourd'hui disparaître. Et c'est pour ça qu'on a pris Christian Jacob. Christian Jacob, il va tenter de rassembler. C'est pas lui qui va incarner la nouveauté.
Pas très convaincu là ce soir.
Il va pas incarner la nouveauté. Ouais. C'est sûr que par rapport Macron en 2017. Représenter une nouveauté. Christian Jacob, c'est pas lui qui va donner la nouveauté, c'est pas lui qui va inventer le 21e siècle, la politique du 21e siècle, mais il peut aujourd'hui essayer de rassembler sur les valeurs du gaullisme.
Ouais, on va voir si ça marche, tout ça. On va reparler justement dans un instant de Nicolas Sarkozy qui a fait une apparition à remarquer aujourd'hui pour rendre hommage à Georges Pompidou. Mais tout d'abord, 20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Lauriane Delanoë.
Des erreurs dans le sujet de mathématiques des séries S et ES du bac et de forts soupçons de fuite pour les ES et les L. Le ministère de l'Éducation nationale porte plainte pour ces possibles fuites, mais pour l'instant, l'épreuve de ce matin n'est pas annulée. Une cinquantaine d'anciens militaires exposés à l'amiante sur des bateaux de la Marine nationale obtiennent la condamnation de l'État. Il devra leur verser entre 3 et 10 000 euros pour ne pas avoir mis en place des mesures de protection à la fois individuelles et collectives efficaces. Le jugement rendu aujourd'hui par le tribunal administratif de Rennes ne retient pas le trouble de l'existence. L'affaire avait soulevé une forte mobilisation en Espagne. 5 hommes condamnés aujourd'hui à 15 ans de prison pour viol par la plus haute juridiction espagnole. Lors du précédent procès l'an dernier, seule la qualification d'abus sexuel avait été retenue. Ce groupe, surnommé La Meute, avait violé une jeune femme lors des fêtes de Pamplune en 2016. Donald Trump est prêt à parler avec le président iranien Hassan Rouhani ou avec l'ayatollah Khamenei. C'est ce que dit ce soir le président américain à la chaîne NBC News. Hier soir, il a renoncé en dernière minute à des frappes aériennes sur l'Iran. Les restaurateurs appelés à ranger leurs terrasses, les concerts de la fête de la musique annulés à Valence ou Chambéry, entre autres, la Drôme, l'Ardèche, l'Isère et les Deux-Savoie, en vigilance orange pour des orages violents ce soir.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
L'idée de la famille de la droite, eh bien Nicolas Sarkozy y a fait allusion lors de ce discours à Beaubourg, c'était à la mi-journée, en hommage au président Georges Pompidou.
Contrairement à ce qu'on dit, les bagarres entre familles différentes sont infiniment moins cruelles et sauvages que les bagarres à l'intérieur d'une même famille. Naturellement, tout rapport ou toute allusion serait parfaitement justifié. Et je pense que le mot héritage, c'est un très beau mot. Parce que ça veut dire qu'on a une famille, et je me sens de cette famille. Ça veut dire qu'on a une culture, et je me sens de cette culture. Et ça veut dire qu'on a la mémoire d'un peuple, et je me sens de ce peuple.
Éric Scholl, la famille, elle est éclatée aujourd'hui, hein.
Elle est éclatée, elle était aussi déjà du temps de Pompidou, hein. Enfin, faut pas non plus se dire que...
Ils étaient ensemble.
Et alors, il y a d'autres moments, ils n'ont plus été ensemble. Regardez, en 1993, ils n'étaient plus ensemble. Enfin, la droite a passé son temps. On sait bien qu'il y a différents courants à droite et qu'ils passent leur temps à exploser. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que les divisions sont beaucoup plus fortes que dans le passé et que cette volonté de rassemblement n'existe plus. On va voir si Christian Jacob est capable de garder au moins, je pense que c'est ça l'objectif, c'est d'essayer de garder les Républicains comme parti et d'éviter que ça se que l'explosion qu'on a eu à laquelle on a assisté depuis à travers les élections, mais bien avant, se poursuive.
À la question, souhaitez-vous rompre avec la méthode Wauquiez ? Réponse de Christian Jacob. Si je suis élu, c'est dans le Figaro. La différence par rapport à mes prédécesseurs, dit-il, c'est que je n'aurai pas besoin de dire que je ne suis pas candidat à la présidentielle, puisque les gens le savent. Kevin Boucaud-Victoire, il ne faut pas avoir d'ambition apparemment désormais pour réussir en politique. Hein.
Alors, l'histoire récente nous a quand même montré que non, enfin, qu'il fallait justement avoir de l'ambition pour réussir. Maintenant, je pense qu'effectivement, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il veut être un leader, là, non pas pour l'emporter, mais pour effectivement empêcher l'incendie de continuer à se propager. Est-ce que ça peut marcher? Je ne sais pas trop, parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme mon prédécesseur l'a dit, les divisions sont ont l'air telles qu'on les voit mal se rassembler. Mais ces divisions-là, en fait, elles éclatent au moment de la fondation de l'UMP, qui est un peu une grande écurie présidentielle, avec des familles qui n'ont presque rien à voir, à part vouloir l'emporter face à la gauche. Ça peut marcher tant qu'il y a un leader, ou tant qu'on est dans une dynamique victorieuse, ou qu'on pense pouvoir gagner. Là, quand ça s'effondre, eh ben tous les rats sont en train de quitter le navire. Et donc, j'ai du mal à voir où ils peuvent aller comme ça.
Oui, parce que Chloé Morin, c'est difficile à comprendre. Retenez Gérard Larcher, qui aujourd'hui est allé lancer dans le nord de la France avec Xavier Bertrand, la campagne des municipales. Bertrand qui est dehors, comme Pécresse. Il va falloir à un moment donné que tout le monde rentre à la maison, la maison Les Républicains.
Oui, je pense que la droite débat beaucoup de sa ligne. Et finalement, beaucoup disent c'est l'absence de rénovation ou de choix de ligne Claire qui est responsable de la crise. Je pense que c'est plus fondamental que ça, et que lorsqu'on regarde l'ensemble des pays occidentaux aujourd'hui, on est confronté à une situation où c'est l'existence des partis politiques et leur rôle dans la démocratie qui est interrogée. C'est-à-dire que effectivement, ils se sont transformés. Enfin, il y a de moins en moins de militants. Ça, on l'observe dans tous les pays sauf l'Espagne. Le socle militant correspond de moins en moins à la moyenne de la population. Ouais. C'est de plus en plus difficile pour un parti politique de faire un travail de rénovation ou d'élaboration de nouvelles idées, notamment en lien avec le monde de la recherche ou la société civile. Et donc, derrière la crise des Républicains, je pense qu'il y a plus fondamentalement à repenser le rôle des partis politiques. Et la question, c'est est-ce que le fait de ne pas avoir d'ambition présidentielle, ça va permettre d'éviter l'éclatement, mais aussi de faire ce travail de réflexion-là.
Éric Scholl.
Oui, sur ces partis, vous avez tout à fait raison, sur les partis politiques. Prenez ce qui se passe en ce moment en Grande-Bretagne. On attend de savoir qui le parti conservateur va désigner, la base des conservateurs va désigner comme prochain Premier ministre, finalement. Ça sera le prochain Premier ministre. Or, ce qu'on voit, c'est que si on regarde ce parti conservateur, les gens qui vont voter ne sont pas du tout représentatifs de la société britannique aujourd'hui. Et c'est ça le problème, je pense, dans nos partis politiques. Les bases ne sont plus représentatives, plus en face forcément avec le corps politique, le corps social.
Les partis évoluent moins vite que leur base. Nicolas Sarkozy, qui publie la semaine prochaine un livre intitulé « Passion », on l'a appris, c'est une surprise, hein, aux éditions de l'Observatoire. 360 pages, non pas de mémoire, explique ses amis, son entourage, mais un livre, paraît-il, personnel sur son itinéraire de ses premiers pas du RPR à l'élection de 2007. Pascal Garbarine, il tourne les pages, selon vous, Nicolas Sarkozy. Vous pourriez échanger vos livres, d'ailleurs, prochainement. Hein.
Oui, je vois ça. Je ne sais pas s'il tourne les pages. Je pense qu'il a besoin, à un moment donné, de faire son bilan et de livrer son bilan, parce qu'on a tellement parlé de lui, et on en a tellement parlé surtout aujourd'hui avec les affaires judiciaires, que je crois qu'il a besoin de se redonner une image pour le public, parce qu'aujourd'hui l'image qui est donnée de Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui a des déboires judiciaires. On a oublié son bilan de président. Alors, il est bon, il est pas bon, là c'est de la politique, oui. mais je pense que pour lui, il a besoin de se redonner une place.
De remettre l'image politique devant, c'est ça.
Exactement, ouais, restaurer, en fait.
Ouais. Parce qu'il nous a fait le coup, déjà, Chloé Morin. Il y avait eu Libre, si mon souvenir est bon, après sa défaite aux Européennes. Corrigez-moi, Eric Scholl, si ma mémoire me trahit. Et au fond, il était dans une sorte de zone grise, et ce livre lui avait permis de repartir pour 2002, pour se retrouver aux côtés de Jacques Chirac. Chloé Morin, pourquoi ce livre, selon vous, aujourd'hui?
Je pense qu'il y a un contraste assez frappant entre, effectivement, médiatiquement, on entend beaucoup les affaires, finalement, qui visent Nicolas Sarkozy, et on l'entend peut ou pas s'exprimer et encore moins son entourage, etc. Et l'opinion, où finalement, il fait partie des cinq personnalités les plus populaires auprès des Français. Et donc, c'est quand même assez frappant de constater qu'en dépit des affaires, il y a une forme de rédemption, et notamment à droite, et que Nicolas Sarkozy, finalement, peut-être en n'ayant pas l'air de vouloir reconquérir le pouvoir, comme par exemple François Hollande, qui lui a plutôt l'air de vouloir revenir, en prenant cette distance-là, a réussi à se forger une image de quelqu'un de désintéressé, ouais. Au-dessus des partis, un peu le parrain de la droite, mais...
C'est très mitterrandien.
Oui, c'est ce que vous dites, Pascal Garbarini.
Une stature intéressante.
Oui. Le parrain de la droite. Kevin Boucaud-Victoire, je ne sais pas si vous amènerez passion sur votre lieu de villégiature, la
J'en
montagne
doute.
Ou à la plage, mais est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy veut réinvestir le champ politique, comme le disait Pascal Garbarini à l'instant, ou peut-être même se relancer un petit peu avec cet ouvrage?
Moi, je pense que Nicolas Sarkozy veut effectivement réinvestir ce champ, parce que c'est un animal politique, c'est quelqu'un qui a baigné dedans depuis tout jeune. C'est quelqu'un qui est passionné par ça, ça se voit. Et en plus, quand on a eu ce genre de vie, c'est très compliqué en fait de trouver autre chose, de trouver une nouvelle raison d'être. Et après, je pense qu'en plus Sarkozy a deux choses pour lui, c'est quand même, ça reste le dernier grand leader de la droite. Après lui, en fait, ceux qui l'ont succédé, que ce soit Copé ou Fillon, qui a pris la tête, enfin qui a été le candidat des Républicains, aucun n'a vraiment réussi à lui reprendre le leadership. Et puis l'autre chose, c'est que on est en fait entré dans une époque de crise structurelle de la Ve République qui fait qu'on a à chaque fois l'impression que les anciens présidents étaient forcément meilleurs que les actuels. Mmh. Quand Chirac a pris sa retraite, enfin depuis que Chirac a pris sa retraite, c'est devenu l'homme politique le plus populaire en France.
C'était mieux avant. Hein.
Exactement.
Et une petite brin de nostalgie aussi avec l'anniversaire, l'évocation, la commémoration du souvenir de la prise de pouvoir de Georges Pompidou. Allez, 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Lauriane Delanoë.
Elton John porte ce soir la Légion d'honneur sur le revers de sa veste. Le chanteur britannique décoré tout à l'heure par Emmanuel Macron à l'occasion de la fête de la musique. Ensemble devant l'Élysée, ils viennent de lancer un appel à la mobilisation contre le sida, le paludisme et la tuberculose. La fête de la musique annulée, en revanche, dans plusieurs villes du quart sud-est ce soir. À Valence, à Chambéry, à Pierrelatte, entre autres, annulation face au risque d'orages violents. L'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont placés en vigilance orange. Et après ces orages, c'est la canicule qui s'installera sur la France. Les températures devraient augmenter dès dimanche pour 5 à 7 jours. Le numéro vert d'information et de prévention sera activé dès lundi matin. Quelques bacheliers disent avoir reçu une partie du sujet de mathématiques avant les épreuves aujourd'hui. De forts soupçons de fuite pour les bacs ES et L. Le ministère de l'Éducation nationale choisit de ne pas faire repasser l'épreuve, mais porte plainte. Une enquête administrative est également ouverte. Des frappes américaines sur l'Iran annulées au dernier moment hier soir. Donald Trump les a validées puis a changé d'avis 10 minutes avant les tirs. Un général lui avait expliqué qu'elle tuerait 150 personnes. Le président américain qui se dit ce soir prêt à parler avec les dirigeants iraniens sans condition préalable. Les berges de la Seine côté rive droite à Paris resteront bien piétonnes. La justice confirme aujourd'hui la légalité de cette piétonnisation décidée par la mairie de Paris. Les recours de 5 associations, notamment d'automobilistes, sont donc rejetés.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Oui, avant la séquence Elton John, fête de la musique à l'Élysée, eh bien Emmanuel Macron était encore à Bruxelles à la mi-journée, conférence de presse fin du Conseil européen, et le chef de l'État n'a pu que constater l'échec à trouver un président pour la Commission européenne.
Aucun des trois candidats qui sortaient de cette procédure, de fait, né il y a 5 ans, n'est apparu comme faisant l'objet d'un consensus. Je pense que le critère que nous devons tous poursuivre, c'est le critère de compétence, de qualité. Parce que trop souvent par le passé, nous avons trouvé des compromis vers des personnalités qui ne portaient peut-être pas avec le plus de force le projet. Et donc, je suis pour qu'on puisse avoir les meilleurs autour de la table.
Pascal Garbarigne, avec un objet pareil, hein, l'Union européenne et ce mercato des top jobs, compliqué de plaider hein, pour l'UE. Hein.
Très compliqué. Je crois que l'Europe n'a jamais été aussi divisée qu'aujourd'hui. Et puis, de toute façon, il y a des courants tellement contradictoires avec tous les populistes qui aujourd'hui veulent prendre la parole et manifestement, ça œuvre en coulisses. Parce que sinon, un consensus aurait été trouvé. Et là, on voit bien qu'il y a des situations de blocage parce que je pense qu'il y a des courants qui, en fait, veulent faire alliance et qui ensuite font marche arrière, je pense, par rapport aux populistes encore.
Oui, Chloé Morin, il y a quelque chose d'ironique dans tout ça parce qu'au fond, au moment où l'Union européenne s'occupait de ses jobs, hein, qu'on n'arrive pas à redistribuer parce que tout le monde s'engueule là-dedans, on est en pleine journée mondiale des réfugiés. Et c'est d'une drôle d'image pour l'institution. Et puis, Ipsos, on va l'évoquer assez rapidement, pardonnez-moi, mais vous publiez des chiffres assez étonnants. C'est une enquête internationale.
Hein. Oui. La Journée mondiale des réfugiés, c'était hier. Et c'est vrai qu'un des principaux reproches qu'on fait souvent à l'Europe, c'est de ne pas être capable de régler globalement la crise des migrants et plus précisément de régler la question des réfugiés. Et nous avons du coup réalisé un certain nombre de sondages en France et à l'étranger sur cette question-là. Il y aurait beaucoup à dire, mais une des choses qui me marque le plus, c'est que y a une forme de complotisme light finalement sur la parole sur la crédibilité.
Vous voulez dire les opinions publiques
prêtées par les opinions publiques à la parole des gouvernements. Vous avez, par exemple, 43% des Français qui pensent que le gouvernement cherche délibérément à, en acceptant une certaine dose d'immigration, altérer la composition ethnique de la population. Donc, et vous avez encore plus les deux tiers des Français qui disent que, finalement, le gouvernement cache les vrais coûts de l'immigration. Et de ce point de vue-là, on voit bien que c'est extrêmement difficile d'avoir un débat démocratique qui est absolument nécessaire pour résoudre cette crise-là, si finalement les opinions ne croient pas en la parole de ceux-là même qui sont censés apporter des solutions aux problèmes.
Enquête Ipsos à découvrir sur le site hein, de la Fondation. Éric Scholl, un mois après les élections européennes, rien ne change finalement. Il y a cette sensation de quelque chose qui patine.
Oui, mais il faut pas non plus en faire trop. Je veux dire, si vous regardez le fonctionnement de l'Union européenne, ça a toujours été comme ça. Dernières élections européennes, quand il a fallu désigner le nouveau président de la Commission, il a fallu 3 sommets. Là, on en est à 2. Eh bien, au 3e sommet, on va finir par l'avoir. Et oui, il y a eu une inquiétude. Il y a des mouvements populistes importants. Mais ce qu'on a quand même vu lors de ces élections, c'est qu'ils ont été en partie contenus. En partie, bien sûr. Ce qui est nouveau, ce qui est tout à fait nouveau, et c'est peut-être pour ça que c'est un peu plus compliqué cette fois-ci, c'est que les deux partis principaux au sein du Parlement européen n'ont plus la majorité. Et il faut qu'ils fassent avec d'autres partis, en particulier avec les libéraux et aussi avec les verts. Donc évidemment, c'est un peu plus compliqué pour se mettre d'accord. Et puis, on a aussi Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, là, on le voyait, on l'entendait il y a quelques instants, en réalité, il est assez content. C'est ce qu'il veut, lui, là. C'est ce qu'il voulait. C'était éliminer le candidat allemand pour la présidente de la Commission. Et là, il est arrivé. Voilà. Maintenant, que ce candidat, donc Manfred Weber, est éliminé, il faut falloir trouver. Est-ce que ça sera le Français? Est-ce que ça sera Barnier? Est-ce que ça sera la Danoise?
Bon. Quel suspense, hein, quand même.
Oui et non, bon. C'est quand même des jobs importants. On peut comprendre. Vrai. Enfin, on peut s'en moquer, mais non. Je pense que c'est des jobs qui sont très importants. C'est des gens qui vont diriger la Commission européenne, qui peuvent avoir beaucoup d'importance aujourd'hui. On aimerait d'ailleurs qu'ils en aient plus, notamment par exemple le poste de la représentation diplomatique. Aujourd'hui, quand on discute des grands événements, on va sans doute parler tout à l'heure de l'Iran, etc.
Est-ce qu'on entend beaucoup la voix de l'Europe?
Eh bien, on aimerait entendre beaucoup plus souvent cette voix européenne. Et c'est peut-être à ces moments-là, justement, d'avoir cette intelligence de dire, il faut la meilleure personne possible dans notre établissement. Et on a quand même des gens qui sont très doués, que ce soit en France ou ailleurs, et de les mettre à ces postes-là pour faire entendre la voix de l'Europe entre les États-Unis, la Chine ou la Russie.
Et je rappelle qu'il n'y a pas eu de prise de position commune hein, à Bruxelles pendant ces deux jours, malgré la crise que nous allons largement évoquer dans la deuxième partie des informés, puisque c'est Donald Tusk l'encore président du Conseil européen qui l'a spécifié, pas de déclaration commune, c'était plus simple, on s'occupait peut-être d'une mécanique des choses qui n'est toujours pas en place. Voilà, on va se marquer une petite pause pour la météo, pour le rappel de l'info. On se retrouve effectivement pour la deuxième partie des Informés de France Info. Nous allons évoquer la situation entre les États-Unis et l'Iran.
Pour moi, le VIE est signe de réussite. Je dirige la branche Asie d'une marque d'artisanat français de luxe et j'ai choisi Samia en VIE, au poste de responsable marketing, qui n'est pas pour rien dans nos derniers chiffres.
Merci. Oui, après mon école de commerce, je voulais faire mes preuves. Et c'est super car... Pas maintenant, je suis en interview.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle ? Avec Business France, sourcez vos futurs collaborateurs pour votre développement à l'étranger. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
Les sauveteurs en mer, ils m'ont sauvé de la noyade, je m'en souviendrai toute ma vie.
C'est une association et leurs secours sont gratuits, donc il faut les aider.
L'été dernier, j'ai perdu mon fils à la plage et c'est eux qui l'ont retrouvé.
Ben, j'ai moi-même un bateau, je sais ce que ça coûte et c'est pour ça qu'il faut les aider.
Les 28 et 29 juin, journée nationale de collecte. Faites un don sur jesoutiens.snsm.org.
La météo, les prévisions avec vous Jean-Michel Golinski pour Météo France.
Toujours des averses orageuses pour la fête de la musique du contrefort des Cévennes aux Alpes et des orages toujours fort probables sur les départements maintenus en vigilance orange. Demain, une petite instabilité sous forme d'averses et parfois d'orages l'après-midi va perdurer près des frontières de l'Est. Ailleurs, le soleil va largement s'imposer. Dimanche, un temps un peu plus terne va s'installer sur la Bretagne alors que le bleu sera de mise partout ailleurs. Les températures vont commencer à grimper demain avec 21-26 degrés dans la moitié nord, 27 à 30 du sud-ouest à la Méditerranée. Dimanche, les valeurs vont approcher 35 degrés sur les rives de la Garonne, 28 à 30 sur les autres régions, un peu moins sur les côtes de la Manche et de l'océan. Des températures qui deviendront caniculaires la semaine prochaine.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
Et 20h30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Julien Longlet.
Bonsoir Jean-François. Jean-Michel Golinski vient d'en parler avant la canicule annoncée sur la France pour la semaine prochaine. Le gouvernement veut prendre les devants. Le ministère de la Santé fait savoir que son plan canicule est d'ores et déjà opérationnel. Une cellule de crise même déjà en place en attendant les cartes plus précises de Météo France pour dimanche. Une anticipation nécessaire pour le professeur Jérôme Salomon. C'est le directeur général de la Santé au sein du ministère.
Il vaut mieux passer des messages très précocement. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des gens qui ont organisé leurs activités pour lundi, il y a déjà des gens qui ont prévu des activités d'extérieur pour lundi, il y a déjà des employeurs qui ont un plan de travail pour lundi. Et donc de pouvoir mobiliser dès le week-end, ça permet aussi que les familles s'adaptent, que les scolaires s'adaptent, que lundi matin les enfants partent à l'école avec de l'eau et avec une tenue adaptée, qu'une activité éventuellement d'extérieur puisse être reportée. Donc plus le message passe tôt, plus les gens ont le temps de se préparer.
Voilà, le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la Santé au sein du ministère. Avant la canicule, les orages donc, et 5 départements du sud-est de la France en vigilance orange, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Et par précaution, plusieurs villes ont annulé des événements prévus ce soir pour la fête de la musique. C'est le cas à Chambéry en Savoie, à Valence ou à Romans-sur-Isère dans la Drôme ou encore à Voiron dans l'Isère. 38e fête de la musique qui a commencé un peu partout en France et à l'Élysée notamment en présence du chef de l'État avec Elton John, décoré de la Légion d'honneur en fin d'après-midi. Puis maintenant, toute une série de concerts ont lieu dans la cour, les jardins, avec des groupes exclusivement féminins, comme le duo Brigitte. Quelques couacs pour le bac. Le ministère de l'Éducation nationale porte plainte après des suspicions de fuite dans quelques établissements d'Île-de-France. Elles concernent le sujet de maths des séries ES et L. Les États-Unis demandent la tenue lundi d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU pour parler des derniers développements liés à l'Iran et notamment à ce drone américain abattu par Téhéran jeudi ou encore les attaques en mer de deux pétroliers le 13 juin dernier. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, le président américain Donald Trump a affirmé avoir annulé au dernier moment des frappes prévues contre l'Iran pour éviter un bilan humain dramatique. Le gazon leur va plutôt bien au tennisman français avec deux demi-finales en vue pour Gilles Simon au tournoi du Queen's à Londres après s'être défait en quart de son compatriote Nicolas Mahut, il affrontera le Russe Medvedev en demi-finale. Pierre Hugerbert sera lui opposé au Suisse Roger Federer au tournoi de Halle en Allemagne. Les matchs sont prévus demain. Et puis toujours en Allemagne, à Düsseldorf, les fleurettistes français sont devenus ce soir vice-championnes d'Europe. C'est la 8e médaille des Français dans cette compétition. 20h33, les informés, Jean-François Aquili.
20h21, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Chloé Morin, politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos, avec Eric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International, avec Kevin Boucaud-Victoire, rédacteur en chef Idée à Marianne, cofondateur de la revue Le Comptoir, auteur du livre Le Mystère Michéa aux éditions L'Escargot, et Pascal Garbarini, avocat, maître Garbarini. Vous venez de signer Ma robe pour armure avec Elisabeth Fleury chez Harper et Collins. Trump est-il en train de préparer la guerre en Iran? Au cœur de la crise, la destruction de ce drone de l'US Navy et un tapis, non pas de bombes, mais de tweets du président américain. Donald Trump qui a confirmé que l'armée américaine était prête à riposter et a expliqué qu'il avait ordonné, vous le savez, d'interrompre ses frappes de 10 minutes avant leur déclenchement. Le récit du président américain en personne, interview exclusive accordée il y a quelques heures à l'émission Meet the Press sur la chaîne NBC News.
Ils sont venus me voir à peu près une demi-heure avant et ils m'ont dit « Monsieur, on est prêt à y aller ». Non, les avions n'avaient pas encore décollé, mais ils s'apprêtaient à le faire. Et on arrivait à un point où il serait impossible de faire machine arrière. Alors j'ai dit « J'ai besoin de savoir quelque chose avant de démarrer. Combien de personnes vont être tuées ?» Dans ce cas précis, je parle d'Iraniens. Et ces généraux, qui sont des gens formidables, ont répondu « À peu près 150, monsieur ». J'ai réfléchi et je me suis dit « Ok, ils ont abattu un drone dans lequel il n'y avait personne et nous voilà avec le risque de tuer 150 personnes. Je n'ai pas aimé ça. J'ai trouvé que ce n'était pas proportionné. »
Eric Scholl, sa main a tremblé.
Je crois pas. Et je crois que il faut pas oublier une chose. Donald Trump vient de rentrer dans une campagne électorale. Il vient de déclarer faire sa acte de candidature. Et on ne peut pas comprendre ça. Il est toujours dans cette position. Il joue. Derrière, il est plus rationnel qu'il n'en a l'air. C'est-à-dire, si on regarde bien ce qui se passe entre l'Iran et Washington et les États-Unis depuis maintenant quelques semaines, c'est un jeu dangereux, mais c'est pas un jeu totalement irrationnel. Chacun fait monter la tension. Aucun des deux partenaires n'a intérêt à la guerre, et ils le savent tous les deux. Et Donald Trump, depuis longtemps, veut absolument éviter la guerre avec l'Iran. Simplement, il y a ce double jeu, c'est-à-dire, sur le plan intérieur, essayer de montrer qu'il peut être en position de frapper, mais qu'il est aussi humain, et il peut se retenir, etc. Il faut pas oublier non plus qu'il a un entourage qui, parfois, est pour le coup beaucoup plus guerrier que lui. Il a des conseillers comme Mike Pompeo qui sont des gens qui sont, alors là pour le coup, qui iraient, c'est les faucons, ils seraient prêts à aller plus loin.
Le complexe militaro-industriel,
le Pentagone, lui, est plutôt, les gens du Pentagone sont moins guerriers peut-être que ses conseillers proches. Donc vous voyez, le jeu entre Téhéran joue aussi un jeu extrêmement dangereux, parce que tout le jeu de Téhéran depuis maintenant quelques semaines, c'est de croître de la pression et d'essayer de faire croire que la faute en incombe à Donald Trump.
Kevin Boucaud-Victoire, de votre point de vue, à qui la faute dans tout ça?
Qui la faute? Peut-être un peu aux deux. Mais ce qui est marrant, en fait, c'est que pour beaucoup, Donald Trump allait être en rupture, en fait, avec la politique américaine d'un point de vue étranger. Alors, on a beaucoup dit qu'Hillary Clinton, c'était le retour, justement, de l'interventionnisme, etc., alors que Trump, ça allait être un
isolationniste.
Exactement. Et en fait, Trump, finalement, fait pareil. C'est-à-dire qu'il montre la puissance américaine un peu à l'international et il montre qu'il est là d'abord pour les intérêts américains.
Pascal Garbarini, je vous ai vu sourire quand on a écouté, vu, entendu donc Donald Trump quand il dit au fond les généraux sont des gens formidables.
Oui, parce que Trump, c'est que de la communication pour moi. Moi, je trouve que d'ailleurs, ce qu'il fait par rapport à l'Iran, le signe qu'il donne, il le donne pas à l'international, il le donne vis-à-vis de ses partisans. Aujourd'hui, il a en ligne de mire sa réélection. Et puis, de toute façon, toute sa présidence, c'est de la com. En fait, on a l'impression qu'il fait du business, qu'il continue à vendre des tours. Donc, et en fait, c'est ça. Et il ne peut pas se désengager en plus du socle, parce que nous Européens et Français, on regarde uniquement, j'allais dire, New York, etc. Mais l'Amérique, c'est pas ça. L'Amérique profonde, ils sont Trump à fond. Et donc, lui, il l'a compris. Il y a que cela qui les intéresse.
Et vous pensez que même si effectivement il communique et fortement, ça n'arrête pas hein, les tweets et soudain NBC News, pensez quand même qu'il a joué un petit peu avec le feu dans cette histoire, ou au fond c'était une sorte de rodomontade militaire.
Moi, je ne pense pas qu'il ait joué avec le feu. Je pense que, contrairement à ce qu'on dit, Trump est loin d'être un imbécile. Il utilise aujourd'hui la difficulté internationale avec l'Iran pour justement renforcer son leadership de manière interne. De manière interne.
Chloé Morin, dans la suite de ce qui est dit, Donald Trump prêt à parler avec il l'a dit sur NBC, hein, avec le président iranien Rouhani, avec l'ayatollah Khamenei. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est je vous montre mes muscles et venez on discute, mais ça marche pas.
Oui, en fait, il mène un jeu, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, il est avant tout en campagne, il a lancé sa campagne il y a quelques jours, donc il a les yeux rivés sur l'opinion publique américaine et notamment sur sa base électorale. Or, que dit l'opinion publique? C'est, pour les sondages qui ont été réalisés un peu avant cette crise par mes collègues aux États-Unis, c'est que à peine 1 sur 10 soutient des attaques préemptives contre l'Iran. En revanche, l'opinion est assez majoritairement convaincue que l'Iran représente une menace pour le pays et serait, en cas d'attaque de l'Iran, en soutien à une attaque donc riposte des États-Unis à 40%. Donc, il joue avec ça et il essaye de montrer que finalement, il est le protecteur, mais pas l'initiateur d'un conflit.
Eric Scholl, de Courrier International, vous dites que nous sommes au bord de la guerre ou, au fond, tout ça va retomber comme un soufflet?
Je pense pas qu'on soit au bord de la guerre, mais en même temps, la guerre est possible. Mais ni l'un, ni l'autre, ni l'Iran, ni les États-Unis n'ont intérêt, ne veulent la guerre. Par contre, ils jouent un jeu extrêmement dangereux des deux côtés pour s'inscrire peut-être dans un jeu à la fois d'influence vis-à-vis du reste du monde et pour peut-être s'inscrire aussi dans une négociation qui va venir. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, les sanctions américaines contre l'Iran mettent l'Iran à genoux économiquement. L'an dernier, il y a encore un an, l'Iran exportait chaque jour 2,5 millions de barils par jour. Aujourd'hui, c'est divisé par 5. Vous comprenez qu'aujourd'hui, l'Iran cherche un moyen de sortie, quitte et un moyen de sortie avec des soutiens, cherche des soutiens à l'international. Et c'est par peut-être ces attaques contre les bateaux pétroliers, parce qu'on ne sait pas tout ce qui s'est passé, les drones, etc. On n'a pas établi ni la responsabilité directe de l'Iran. L'Iran, bien sûr, on sait que c'est l'Iran qui a frappé le drone.
Oui, il nous manque quelques séquences du film.
Mais on ne sait pas où ça s'est passé. On ne sait pas si ça s'est passé sur le territoire iranien, si ça s'est passé à l'extérieur. Donc, il y a un jeu de communication très important en ce moment, ou d'influence entre les deux pays.
Allez, 20h41 sur France Info, pardon pour le retard. Rappel de l'info avec vous, Lauriane Delanoë.
Que les bacheliers en ES ou en L se rassurent. Pour l'instant, le ministère ne compte pas leur faire repasser l'épreuve de mathématiques de ce matin. Mais le ministère porte plainte car il y aurait eu des fuites. Certains éléments du sujet auraient circulé entre quelques candidats dans 3 ou 4 établissements en Île-de-France. Des orages ce soir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 5 départements en vigilance orange. Les Deux-Savoie, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. Plusieurs villes annulent donc les concerts de la fête de la musique. Valence, par exemple. On ne prend aucun risque, explique le maire sur France Info. 20 jours après la démission de Laurent Wauquiez, voici un candidat pour prendre la présidence du parti Les Républicains. Christian Jacob l'annonce aujourd'hui au journal Le Figaro. Le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale dit vouloir poser les bases d'une réconciliation avec ceux qui ont quitté le parti ou pris leur distance. Le député Rassemblement National Louis Alliot, entendu par la police judiciaire de Montpellier aujourd'hui. Une audition libre d'après France Bleu Héros sur des soupçons d'emploi fictif. Son ancien assistant parlementaire placé lui en garde à vue. L'ambassadeur de la France à l'ONU salue un succès. L'Organisation internationale du travail a adopté aujourd'hui le premier traité international contre la violence et le harcèlement au travail. Cette convention pose le principe de sanctions et souligne que les femmes et les filles sont les premières victimes de ces violences. Les pays doivent maintenant ratifier ce texte.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, en marge de ces menaces de conflit ou pas, hein, nous sommes quand même le premier jour de l'été, faut-il le rappeler. Nous allons évoquer la fête de la musique qui a déjà démarré, pas seulement en France. Bonsoir à vous, Jack Lang.
Bonsoir.
Allez, merci d'être en direct sur France Info ce soir. Créateur, faut-il le rappeler, cher Jack Lang, en 1982, quand vous étiez ministre de la Culture, de cette fête qui s'est exportée dans le monde entier. Si vous le permettez, Jack Lang, je sais que vous vous trouvez dans les locaux de l'Institut du Monde Arabe que vous présidez. Quel regard, Jack Lang, portez-vous sur la crise qui oppose les États-Unis à l'Iran que nous venons d'évoquer aux informés de France Info?
Oui, je n'ai pas suivi les dernières informations. Je suis absorbé par la fête de la musique, mais si elles n'ont pas changé depuis ce matin, je dirais que malheureusement, M. Trump nous engage le monde dans un processus dangereux. D'abord, il s'est retiré unilatéralement de l'accord que nous avions conclu avec l'Iran, l'accord nucléaire, et c'était un grand succès, je dirais, de la diplomatie internationale. Et l'acte de retrait unilatéral était un acte illégal, en tout cas illégitime, oui, qui a contribué à déstabiliser la situation. Et voici qu'à présent, il jette de l'huile sur le feu. Alors je ne sais pas quelle est la réalité de la situation sur le terrain, dans le détroit d'Ormuz. Mais disons que je dirais qu'il y a un enchaînement qui se produit, qui peut être très dangereux.
Alors il se dit, hein, je vous le précise, il l'a dit sur la chaîne NBC News, prêt à dialoguer avec le président iranien Rouhani, avec l'ayatollah Khamenei, mais il dit aussi que ses militaires sont prêts. Jack Lang, qu'est-ce que vous diriez, vous qui connaissez bien, évidemment, éminemment le monde arabe, vous diriez que qui est responsable dans cette affaire? Est-ce que c'est l'attitude un peu va-t-en-guerre, disent certains, de Donald Trump, ou la dureté du régime de la République islamique?
Le régime islamique, à coup sûr, n'est pas un régime tendre, ni un régime de préservation des libertés. Mais on doit lui accorder ce crédit d'avoir consenti, sous le contrôle international, d'accepter de conclure un accord sur le nucléaire. C'est un acte positif qui a été approuvé par tous les pays de la communauté internationale, dont la France. La lutte qu'engage Trump contre l'Iran est une lutte, je dirais, un peu fanatique. Et menacer de recours à la guerre, c'est prendre de graves risques. Et n'oublions pas que l'un de ses prédécesseurs, M. Bush, a commis de graves crimes contre le droit international et contre le peuple irakien lorsqu'il a engagé une opération illicite, illégale et meurtrière contre l'Irak, se fondant d'ailleurs sur des informations mensongères. Et aujourd'hui, nous payons encore le prix de la politique qui a été menée par M. Bush.
Vous pensez que la France et l'Europe doivent tenter une médiation dans les jours qui viennent, Jack Lang?
Je pense qu'en effet, l'Europe peut jouer un rôle positif, en tout cas les États qui ont participé à la conclusion de l'accord, dont la France, ont un rôle important à jouer.
Alors, loin de ces bruits de bottes, Jack Lang, il y a donc la musique, 37e édition, je ne me trompe pas, de la fête. Est-ce que vous ressentez vous-même la même ferveur qu'au premier jour?
Sûrement, parce que cette ferveur n'est pas la même, parce que la ferveur des premiers moments n'est pas la même que celle d'un déploiement aujourd'hui international d'un événement qui est né en France. Mais cette ferveur, elle est partout, d'après tous les témoignages que je reçois, en France même, et pas seulement dans les grandes villes, parce qu'on ne parle que de Paris ou des grandes capitales, c'est très bien, mais il y a partout.
Oui, c'est partout,
partout. Par exemple, aujourd'hui, j'étais en contact avec des amis dans un merveilleux village à Beauregard, dans le Lot. Depuis plusieurs semaines, ils se préparent à l'événement. Ils le font avec beaucoup de cœur, de goût, de finesse. Et c'est ça la fête de la musique. C'est les citoyens, les musiciens, les amoureux de la musique, qui sont acteurs de l'événement. Et la fête de la musique, du coup, appartient à eux. C'est eux, c'est la propriété collective, si j'ose dire, des millions de gens qui, depuis des années, la font vivre, respirer, vibrer.
Vous l'avez lancée, elle appartient à tout le monde, à tous ceux qui s'en emparent. Chloé Morin de l'Institut Ipsos à mes côtés, peut-être une précision à apporter vous concernant Jack Lang.
Oui, en tout cas, vous avez l'air d'avoir trouvé la recette de la popularité et de la longévité, puisque c'est dans le baromètre Ipsos Le Point, vous êtes la deuxième personnalité préférée des Français.
Deuxième personnalité, Jack Lang. Comment est-ce que vous expliquez cette popularité aujourd'hui, vous concernant ?
C'est pas facile de parler de soi.
Non.
Peut-être que la directrice d'Ipsos saurait expliquer les choses mieux que moi. Peut-être pourrait-on dire que j'ai bénéficié d'une certaine longévité dans la même fonction et accompagné du soutien du président François Mitterrand, et nous avons pu accomplir d'innombrables actes qui ont, je pense, contribué à frapper l'imaginaire collectif. Et du coup, de génération en génération, ce que nous avons engagé à l'époque est ressenti comme des actes positifs, humains, qui changent la vie. Et aujourd'hui encore, ce que nous avions engagé jusque dans les années 93, se produit ses fruits dans tous les domaines de l'art, de la création, et de la culture. Voilà.
Avec un parti socialiste.
J'ai la chance aussi de pouvoir un peu modifier notre système d'éducation et d'apporter quelques améliorations.
Avec un parti socialiste qui a peut-être tendance à disparaître du paysage, il faut le reconnaître aujourd'hui, Jack Lang.
C'est triste, c'est très triste. Je pense que le pays a besoin, un pays pour être une démocratie pleine et entière, a besoin de contre-pouvoirs, a besoin d'un équilibre entre différentes familles de pensée. Et personnellement, je reste, mon cœur est toujours à gauche. Je vois de loin aujourd'hui les difficultés de ce parti socialiste que nous avions contribué avec François Mitterrand à développer, qui a permis à son chef de devenir président de la République et d'accomplir des réformes et des changements. Mais bon, l'histoire n'est pas finie, comme dirait l'autre. Il y aura d'autres rebondissements, d'autres aventures. Et puis, je dirais, pour revenir à la fête de la musique, ce qui me touche le plus, c'est cet enthousiasme collectif qui est présent, qui est fort, et qui, finalement, sur tous les plans, est la source de changements de toutes sortes.
Allez, merci à vous, Jack Lang. Vous souhaite une bonne fête de la musique ce soir, à vous également.
Eh bien, à vous, et à vous, à France Info. Et j'en profite pour vous féliciter, pour vous-même, Jean-François Aquili, pour l'émission que vous allumez chaque soir avec les informés.
Allez, on accepte les compliments. Merci à vous, Jack Lang. Merci d'avoir été en direct sur France Info. 20h50, le rappel de l'info avec vous, Lauriane Delanoë.
Et revoici des orages dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, moins d'une semaine après le précédent dévastateur dans les vergers et les vignes. 5 départements en vigilance orange ce soir, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et les Deux-Savoie. Orage ce soir donc, forte chaleur dans les prochains jours. Un épisode de canicule annoncé la semaine prochaine, il fera jusqu'à 40 degrés par exemple dans l'Est ou le centre de la France. Dès lundi, un numéro vert d'information sera activé et les télévisions et radios devront diffuser des messages de prévention. Des fuites sur le sujet de mathématiques du baccalauréat section L et ES ce matin. Le ministère de l'Éducation nationale porte plainte et ouvre une enquête administrative. L'épreuve de ce matin n'est pas annulée, pas besoin de la repasser pour les bacheliers. Pour l'instant, souligne la secrétaire générale du syndicat SNES FSU sur France Info, puisque des élèves pourraient dénoncer une rupture d'équité. Le corps retrouvé dimanche dernier sur la plage des Sables d'Olonne est bien celui du pêcheur qui avait disparu en pleine tempête Miguel début juin. 3 sauveteurs de la SNSM sont morts en allant à son secours. Les États-Unis demandent une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, à propos de l'Iran. Demande pour une réunion dès ce lundi. L'Iran a abattu hier un drone américain. Dans la foulée, hier soir, Donald Trump a autorisé, puis annulé in extremis, des frappes aériennes sur 3 sites en Iran.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà donc, nous avons évoqué à l'instant la fête de la musique. C'est également l'été et c'est le week-end qui arrive. On peut quand même parler d'autre chose que de l'actualité à chaud. Il y a également les livres. Pascal Garbarini, nous avons invité sur France Info ce soir pour évoquer votre ouvrage, hein, Ma robe pour armure. C'est une autobiographie de l'avocat que vous êtes, un récit d'une sorte de trajectoire de votre enfance à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez éprouvé le besoin de raconter ce récit personnel?
Je crois que d'abord, je sais que je ne pouvais pas le faire avant. C'était une introspection qui ne pouvait se faire que maintenant et qui m'est apparue nécessaire parce que j'avais besoin de non pas de tourner la page, mais de regarder en arrière et de voir le parcours qui avait été le mien, parce que rien ne me prédestinait ni à être avocat, ni à faire les défenses que j'ai faites.
On rappelle le pitch rapide, hein, avocat des nations, hein, si je puis dire ainsi. Vous en parlez très longuement dans cet ouvrage. Pendant les années de plomb jusqu'au procès Colonna, c'était il y a déjà 10 ans, le temps passe si vite, et une galerie de portraits avec des magistrats ou en couleur, Bruguière, Thiel, avec des personnalités nationalistes aussi qui appartiennent au passé, on va pas les détailler ici. Et vous avez ce récit, au fond, qui est assez violent, finalement. Il y a beaucoup de morts dans cet ouvrage. Vous avez traversé des périodes assez étonnantes.
Oui, mais c'est pas parce que c'était l'histoire à ce moment-là qui l'a voulu. On était plus dans la tragédie que dans le bonheur. L'histoire à ce moment-là, l'histoire judiciaire, l'histoire politique, parce qu'on oublie que toutes ces affaires-là, ces affaires corses à ce moment-là, elles étaient à la fois judiciaires, mais si elles étaient judiciaires, c'est parce qu'il y avait le politique avant, et que il fallait bien résoudre les problèmes qui s'étaient posés, et il y a des hommes qui ont décidé à un moment donné de prendre les armes et d'encourir des sanctions très graves, à la fois judiciaires et puis des sanctions dramatiques, parce que ça a été la mort.
Et puis, page 199, il y a une référence au cinéma, notamment au cinéma, au polar, hein, au cinéma policier. Vous avez une espèce de passion pour Cazavetes, Brian De Palma, John Ford et autres. Vous citez Melville, j'ai joué, j'ai perdu toute ma vie, ils me chercheront. Ou plus loin, vous citez, donc ça c'est Ventura dans le deuxième souffle. Vous citez également Alain Delon, je ne perds jamais, jamais vraiment, Alain Delon, dont vous êtes aujourd'hui l'avocat.
Oui, je suis un des avocats d'Alain Delon, et pour moi, ça a été un...
Ce sont des mythes modernes, ces personnages.
Oui, c'est une rencontre... vous vous rendez compte, moi, qui étais toujours passionné par le cinéma de Melville et d'autres, et surtout d'Alain Delon, et de me retrouver à le défendre.
Oui.
C'est, je crois, le clin d'œil de ce métier. C'est-à-dire qu'on se retrouve à défendre des gens qu'en fait la vie ne vous aurait pas permis de rencontrer.
Votre regard sur la défense cette semaine, c'était la clôture, la conclusion du procès de Patrick Balkany, procès qui s'est achevé. C'était un peu mission impossible pour maître Éric Dupond-Moretti, que vous connaissez bien, qui est aussi, comme vous, une figure du barreau, on va dire.
C'est très dur parce que le dossier dans le contexte actuel, dans la situation actuelle, il ne plaide pas, c'est le moins qu'on puisse dire, en faveur de Monsieur Balkany, ça c'est certain. Il y a ensuite une personne qui a une telle personnalité qu'il est difficile pour l'avocat de la contourner, de la maîtriser, et ensuite avec une peine requise qui est d'une sévérité extrême, et elle ne pouvait pas en être autrement, parce que je pense que le parquet national financier était dans son rôle, il voulait taper, il voulait montrer à l'opinion publique que l'on ne pouvait pas se comporter comme cela. Et donc, pour mon confrère, bien évidemment, c'est très compliqué, et il a dû se battre avec force pour tenter de casser le mur de culpabilité.
Autre ouvrage, autre livre avec vous, Kevin Boucaud-Victoire, Le mystère Michéa. Vous dressez le portrait d'un anarchiste conservateur, on veut dire en quelques mots, hein, c'est un philosophe qui a été connu d'ailleurs pour avoir écrit sur George Orwell, si mon souvenir est bon.
Effectivement, l'un de ceux qui a popularisé le Orwell politique. Et c'est du coup ce livre est presque la suite du livre que j'avais sorti l'année dernière sur George Orwell. Oui.
Dont on dit qu'il il séduirait aujourd'hui aussi bien, et c'est furieusement d'actualité politique, hein, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite.
Alors oui, parce que Michéa, en fait, est un socialiste radicalement anticapitaliste, mais qui a décidé de rompre avec sa famille, la gauche, dont il estime qu'elle a trahi les classes populaires pour une admiration du progrès et pour se ranger du côté des combats sociétaux et des minorités plutôt que de la majorité populaire.
Vous validez en quelque sorte ce lien qui pourrait exister aujourd'hui entre ces électorats qui parfois se rejoignent dans les urnes.
Oui.
Ouais. Vous validez ça?
Je valide cette idée, c'est-à-dire que, comme le stipule le théorème d'Orwell écrit par Michéa, quand l'extrême droite progresse dans le cœur des gens ordinaires, c'est d'abord sur elle-même que la gauche doit réfléchir. Et je pense que la gauche ferait bien de se mettre à réfléchir plutôt que de diaboliser en fait ces électeurs qui sont tentés vers le pire, c'est-à-dire à le Rassemblement National.
Allez, c'est le mot de la fin. Oh, vous gardez la main, tiens, Kevin Boucaud-Victoire. Quelle est la une de Marianne cette semaine?
Alors, cette semaine, en fait, on s'intéresse sur une trentaine d'années de privatisation. Donc, on commence avec celle de Balladur.
Ils ont cassé voilà. Le service public, titre Marianne. La une du Courrier International avec vous, Eric Scholl.
Hong Kong, non à la Chine. On revient, on essaye de comprendre comment ce petit territoire tente de résister et de faire valoir l'état de droit face à ce grand pays qui est la Chine.
Et je rappelle l'enquête Ipsos International à découvrir sur le site d'Ipsos avec vous, Chloé Morin. Merci. Merci à vous, Kevin Boucaud-Victoire. Merci, Eric Scholl. Et merci, Pascal Garbarigne. Pour ma part, je vous donne rendez-vous avec Noé Da Silva pour les informer sur France Info demain soir. Bonsoir.